France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Qu'est-ce que les Lumières ? C'est notre série cette semaine. Aujourd'hui, nous parlons de l'esprit des Lumières dans les révolutions américaines et françaises. Il y a des liens entre ces deux révolutions démocratiques de la fin du XVIIIe siècle, des préoccupations communes, des références et des lectures qui rassemblent des figures essentielles de ces deux événements. Benjamin Franklin, signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776, a été leur premier ambassadeur officieux à Paris, où il a réussi à convaincre les Français de les soutenir dans leur guerre contre les Britanniques. Thomas Jefferson lui succédera comme diplomate en France entre 1785 et 1789, Jefferson, lecteur attentif des auteurs français du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau compris alors qu'il était le plus critique parmi les auteurs des Lumières envers certains aspects de ces Lumières. Ainsi, les batailles intellectuelles françaises des Lumières ont-elles irradié en Amérique ? Sans parler de la pensée de Montesquieu sur la distribution des pouvoirs qui marque en profondeur les institutions des États-Unis. On pense aussi bien sûr à Lafayette, officier français engagé aux côtés des Américains contre les Britanniques, qui plus tard en France deviendra commandant de la garde nationale créée le 15 juillet 1789 et participera au projet d'écriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. On pense encore à Thomas Paine, penseur britannique qui a soutenu l'indépendance américaine, offrant même à cette république en construction un texte qui deviendra une de ses références majeures, Le Sens commun, paru en 1776. Et ensuite, Paine défendra la Révolution française contre les critiques de son compatriote anglais Edmund Burke. Paine se fera admettre à la citoyenneté française, deviendra député français à la Convention nationale en 1792, avant de finir sa vie aux États-Unis. Personnages et idées circulent donc entre l'Amérique et la France à la fin du XVIIIe siècle. Mais attention de ne pas écraser sous l'expression « les Lumières » la singularité de chacune de ces révolutions et aussi leurs inventions qui défient les héritages. Justement, je crois savoir que nos invités d'aujourd'hui ont à cœur d'éviter simplisme et caricature. Bonjour Philippe Reynaud.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes professeur émérite de sciences politiques et de philosophie politique de l'université Paris-Panthéon-Assas et co-directeur de la revue Commentaires. Vous avez écrit aussi bien sur les Lumières, anglaises et françaises, que sur la pensée politique des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Et bonjour Jean-Yves Prancher.
Bonjour.
Vous êtes professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez travaillé la notion de droit de l'homme, notamment dans un ouvrage coécrit avec Justine Lacroix, et vous êtes un spécialiste de la pensée contre-révolutionnaire qui s'est développée après la Révolution, tout particulièrement en France, donc dans ces années de fin 18e, début du 19e siècle. Je vous propose d'ailleurs de commencer par là. Jean-Yves Prancher, dans vos travaux, vous le dites, c'est justement cette pensée-là, contre-révolutionnaire, qui a beaucoup assimilé la Révolution française aux Lumières qu'elle honnissait et qu'elle a donc les a donc assimilés pour rejeter tout cela en bloc. Mais c'est commode sur le plan stratégique, c'est cependant grossier, n'est-ce pas ?
Absolument. Il y aurait deux points à souligner. D'une part, cette pensée contre-révolutionnaire chez ces grandes figures, y compris Maistre et Bonald, et puis chez des figures plus modérées, on va prendre par exemple Rivarol, cette pensée contre-révolutionnaire, elle est issue des Lumières. C'est-à-dire ce sont des auteurs qui se sont intégralement formés dans la pensée des Lumières. Bonald, Maistre ont un rapport très ambivalent à Rousseau, dont ils soutiennent la critique des Lumières et dont ils tentent de retourner dans un sens non démocratique la notion de volonté générale. Ils ont énormément lu Montesquieu et Voltaire. Ils ont énormément lu les physiocrates auxquels ils doivent beaucoup. Et ils ont été des lecteurs de l'encyclopédie. Donc avant 1789, ils appartiennent en fait à une aile plus conservatrice des Lumières, mais ils sont intégralement inscrits dans les Lumières. Et leur retournement contre les Lumières est un retournement qui s'opère avec les outils des Lumières et avec certains traits des Lumières qu'ils vont accentuer. L'antidémocratisme de Voltaire, par exemple, la théorie physiocratique de l'ordre, tout cela va jouer un grand rôle chez eux. Et il y a un deuxième élément qui est que... parmi les penseurs contre-révolutionnaires, on aura également un certain nombre de penseurs des Lumières. On pourra en parler, hein, mais il y a des figures des Lumières, comme l'abbé Raynal, qui vont se retourner contre la Révolution, comme le célèbre Laharpe, qui deviendra un contre-révolutionnaire très radical, alors qu'il était un peu voltairien, comme Rivarol, qui était un voltairien. Et donc, en faisant des Lumières un bloc, en fait, je dirais que des gens comme Mestre et Bonald, ils construisent un concept des Lumières qui justement fait des Lumières un bloc, là où la Révolution en réalité a beaucoup plus révélé les fractions internes aux Lumières. Fractions entre les disciples de Montesquieu, les disciples de Voltaire, les disciples de l'Encyclopédie, les disciples de Rousseau. Et le subterfuge de Bonald du Maistre, mais qui a son intérêt, c'est de tenter de montrer une espèce d'unité chez ces auteurs, quand le cours de la Révolution va montrer en fait à quel point il peut y avoir de profondes dissensions entre ces différentes figures des Lumières qui vont prendre des positions très différentes dans le cours de la Révolution.
Vous êtes d'accord, Philippe Reynaud, il y a une construction des Lumières comme un bloc après la Révolution française pour mieux critiquer l'ensemble.
Je ne dirais pas les choses comme ça, parce que s'il y avait une construction, ça supposerait qu'il y ait un constructeur. Et je ne suis pas assez constructiviste pour voir des choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a une histoire dans laquelle il y a de bonnes raisons d'appeler un certain nombre de courants, d'auteurs, etc., de les réunir sous une appellation commune qui est celle de Lumière. Il y a quand même un certain nombre de points communs à tous ces gens-là, et d'autre part, on ne peut pas nier que Bonald et Maistre soient formés là, ça ne veut pas dire qu'ils se sont pas opposés, et ils ont, à mon avis, ils n'ont pas construit quelque chose, ils ont pris acte d'un certain nombre de ruptures, qui font qu'à partir d'un certain moment, effectivement, on a le sentiment que même si beaucoup d'hommes des Lumières modérés ont été surpris et parfois indignés par la Révolution française, il y a quand même une certaine décontinuité entre la philosophie des Lumières et la Révolution française. Donc je pense que c'est pas une construction, c'est le résultat d'une recomposition du champ des idées ou des idéologies qui fait qu'après après une telle rupture, ben il y a des nouveaux clivages, mais il n'empêche, si vous voulez, qu'il y a il y a une différence et une opposition frontale entre ceux qui considèrent que la Révolution française est le fruit d'une rupture avec le passé chrétien de l'Europe, etc., qui a quand même été préparé par la plupart des philosophes du XVIIIe siècle, et ceux qui pensent que la raison s'est incarnée sous une forme pas forcément satisfaisante dans la Révolution française. Bon, je pense, après tout, il y a un auteur qui a très bien compris tout ça, à mon avis, c'est Hegel.
Il est allemand, ça ne nous simplifie pas le tableau.
Oui, mais si vous lisez dans la Phénoménologie de l'esprit, il montre très bien la continuité entre l'époque des Lumières et la Révolution française, dans lequel, comme il le dit très bien, l'époque des Lumières a ruiné tous les systèmes de légitimation antérieurs, et ça a donné l'aboutissement, c'est l'idée vide de la volonté volonté générale qui elle-même va se traduire par la terreur, mais je pense que c'est une vision assez juste. Mais c'est, le problème de Hegel, c'est que c'est un esprit spéculatif apparemment un peu abscon, mais qui a un profond bon sens, en fait.
Alors, juste pour la voix... Attendez, il faut quand même... Pour les gens qui nous écoutent. Donc, la volonté générale, c'est un concept de Rousseau développé dans le Contrat social de 1762. Il a été utilisé dans la Révolution. Il est toujours présent, ce concept, dans les préambules institutionnel français, mais il faut quand même dire qu'il a été utilisé pour être d'emblée trahi, puisque pour Rousseau, la volonté générale ne peut émerger d'une assemblée que si précisément elle délibère en direct et fait la loi elle-même et sans représentant. Et on l'a utilisé, ce concept, alors même que peut-être ne pouvait-on pas faire autrement. On a mis des représentants. Il faut dire que la France était très grand, c'est pas un canton suisse. Mais du coup, on a utilisé Rousseau en le trahissant. Bon, en disant que la loi, c'est la volonté générale, alors que chez nous, depuis la Révolution française, la loi est faite par des représentants, et donc Rousseau n'aurait sans doute jamais validé cet usage de son terme. Je trouve c'est intéressant, Jean-Yves Franchère, parce que il y a de tout dans la Révolution française et dans l'après-Révolution française. Il y a de l'instrumentalisation des Lumières, il y a des rejets abusifs des Lumières, il y a de la trahison des Lumières tout en se réclamant d'elles, il y a une mauvaise foi typique de la détresse aussi, il faut bien le dire, des acteurs historiques qui sont là après un événement profondément bouleversant.
Absolument, mais si vous voulez, pour nouer votre question à ce que nous disions, il y a une célèbre phrase de Clémenceau qui disait que la Révolution est un bloc, et Raymond Aron disait absolument pas. Ça a été une succession de mouvements menés par des acteurs différents qui avaient des vues différentes. Et donc, je résiste beaucoup à la téléologie hegélienne, quelle que soit sa grandeur, et je pense que la situation a été beaucoup plus embrouillée que ce qu'on pourrait dire. Parce que il est bien clair qu'il y a quelque chose comme les Lumières, mais prenez par exemple en Angleterre Burke, je sais que vous parlerez des Lumières écossaises demain, Burke est un pur représentant des Lumières écossaises. Lui et Adam Smith sont d'accord sur tout. Sur tout.
Je crois qu'il est plutôt irlandais.
D'accord, mais c'est de ce qu'on appelle les Lumières écossaises, c'est-à-dire il est à la même école. Oui, il est irlandais, absolument, ce qui va compliquer encore la situation. Mais j'en vise par là vraiment son amitié complète avec Adam Smith et son accord complet avec lui. Bon. Et Burke est un immense admirateur de Montesquieu jusqu'à la fin. Il dit Montesquieu est le plus grand penseur de tous les temps, mais il considère que Voltaire, les encyclopédistes, Rousseau, sont, comme il le dit, des philosophes cannibales qui sont directement responsables de la terreur et qui étaient eux-mêmes en puissance des terroristes. Bon. Et donc il y a une profusion d'utilisation des penseurs des Lumières et une profusion d'impulsion des penseurs des Lumières et qui, à mon avis, ne fait pas bloc et qui est extrêmement intéressante à étudier. Vous avez cité Thomas Paine, par exemple. Bon. Oui. Mais alors que Voltaire n'a que du mépris pour la populace et n'est certainement pas un démocrate, Maistre lui-même le disait. Il disait Voltaire n'aurait aimé que le côté anti-religieux de la Révolution française. Le reste l'aurait horrifié comme un gouvernement de la canaille. Thomas Paine, c'est au contraire une sorte de proto-populiste au sens positif. C'est ce que disait Sophia Rosenfeld dans des textes qu'un lui a consacrés. Et c'est quelqu'un qui a comme bagage intellectuel la Bible et la confiance dans le bon sens du peuple. Bon, est-ce que ça en fait un penseur des Lumières, si vous voulez, au sens d'un grand démystificateur? Non. L'axe de son engagement, il est démocratique. Il est philo-populaire. Donc, si vous voulez, on a quand même là des figures qui ont des affects et des positions très difficiles à rassembler. Et on pourrait en dire autant pour cette notion de volonté générale. Il est absolument certain qu'on a été trahi. Mais certains auteurs en ont eu conscience. Quelqu'un comme Louis-Sébastien Mercier, par exemple, qui est l'auteur d'un chef-d'œuvre sous-estimé, qui s'appelle Le Tableau de Paris, et qui a été un acteur de la Révolution, qui a été élu, et qui était un ami de Rousseau et un rousseauiste convaincu. Bon, il s'engage dans la Révolution comme Girondin, il refuse les Jacobins, il refuse le régicide, et il se retourne contre les encyclopédistes, justement parce qu'il estime dans la Révolution que d'une part Rousseau a été trahi, et puis d'autre part, il n'a que du mépris pour Voltaire et pour les encyclopédistes et pour leur matérialisme et leur sensualisme.
Si vous voulez,
et cette
tous ne sont pas de sensualistes. Tous ne le sont pas.
Non, non, bien sûr. Mais si vous voulez, il y a des fractions, il y a vraiment des fractures qui vont se situer ainsi. Et on observera que les auteurs les plus critiques de la révolution seront souvent, alors c'est compliqué parce que seront souvent des gens qui, paradoxalement, pouvaient avoir de la sympathie pour Rousseau, des gens comme Chateaubriand. Alors que l'héritage révolutionnaire sera défendu et l'héritage révolutionnaire en tant qu'il est lié aux Lumières sera défendu par les idéologues au moment du Directoire. Vous voyez, donc si vous regardez les polémiques, parce qu'il y a des polémiques intenses dans toute la séquence Directoire consulat sur la responsabilité des Lumières, et quand vous regardez les débats, vous assistez parfois à des discussions qui peuvent nous sembler assez à front renversé.
Alors pour l'historien, évidemment, ça renvoie, c'est ce que j'entends là dans toutes les remarques très riches que vous venez de faire, Jean-Yves Prancher, ça renvoie au fait que les Lumières n'ont jamais été parfaitement unifiées. Il y a eu des matérialistes, il y a eu des déistes, beaucoup de déistes. Voltaire, vous le soulignez beaucoup, était pour une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Et je voudrais justement me tourner, enfin bon, peut-être c'est encore plus compliqué, me fait signe Philippe Reynaud, je vous laisserai rectifier, mais quand même je vous interpelle sur ce point, Philippe Reynaud, vous avez beaucoup écrit sur la rivalité France-Angleterre, si j'ose dire, dans La politesse des Lumières, un de vos livres au XVIIIe siècle. Il y a vraiment deux lignes. Il faut dire que et Voltaire et Montesquieu étaient des gens qui connaissaient très bien l'Angleterre, qui avaient même largement pour modèle beaucoup de choses, disons, beaucoup de choses, pas tout, des Anglais qui ont fait leur Bill of Rights, déclaration des droits et leur monarchie parlementaire après la Révolution glorieuse de 1688. Et évidemment, ces gens-là, on se dit, ne sont pas pour la révolution telle qu'elle s'est passée.
C'est clair, oui.
Voilà, donc évidemment, on peut toujours... en fait, ce qu'on a compris, c'est que les Lumières n'étaient pas unifiées. On l'a encore mieux compris après la Révolution française. Philippe Reynaud.
Écoutez, vous savez, d'abord, il y a des appellations qui sont... qui peuvent être historiquement justes sans qu'elles traduisent directement la conscience des contemporains que ces appellations désignent.
Oui.
Vous savez, il y a cette plaisanterie célèbre sur je ne sais plus quel opéra où le chœur chante nous autres hommes du haut Moyen-Âge. Bon, les gens ne savent pas qu'ils sont du haut Moyen-Âge.
Oui.
Bon, et les Lumières bon, ne se voient pas comme un... peut-être comme aussi aussi unifié qu'on le voudrait. Mais enfin, pour ce qui est de la France, il y a quand même, si vous voulez, non pas un, mais des milieux qui ont un certain nombre d'accords, de connivences. Il y a une entreprise collective quand même très importante à laquelle à peu près tous les gens que nous considérons comme rattachés aux Lumières ont participé, c'est l'encyclopédie, qui n'est quand même pas rien. Et à l'intérieur de tous ces gens, il y a un certain nombre de divergences qui vont se traduire par des polémiques publiques. Bon, il y a la grande rupture entre Diderot et son ami Rousseau, d'un côté, mais il y a aussi des discussions très vives sur la philosophie politique de Montesquieu, qui est, contrairement à ce qu'on imagine, est plutôt un apax au sein des Lumières françaises. Bon, Voltaire a repris une plaisanterie très, très amusante de son ami Madame du Deffand, en disant, en fait, ce que Montesquieu a fait, c'est de l'esprit sur les lois.
C'est tout Voltaire, ça.
Oui, c'est tout Voltaire. Voltaire. Alors, on peut, mais on peut mettre un certain ordre, si vous voulez. Ces divergences ne sont pas simplement un pur bariolage. Il y a un certain nombre de choses. Alors, à propos, justement, du rapport à l'héritage anglais, la constitution anglaise, bon... je crois que Voltaire et Montesquieu n'ont pas le même rapport à la Constitution anglaise et que ni l'un ni l'autre ne plaident pour sa transposition en France.
Ah, ni l'un ni l'autre.
Ce que pense Voltaire, c'est que l'histoire anglaise a réussi un certain nombre de choses Parce que c'est mieux combiné qu'en France, parce qu'en France, il y a eu la Fronde, qui est un mouvement pour lequel il a un total mépris. Mais il ne plaide pas pour la pure et simple transposition du régime anglais. Ce qu'il plaide, c'est plutôt pour une réforme de la monarchie, avec l'idée que si on libère la monarchie française d'un certain nombre d'archaïsmes, et notamment de l'hégémonie de l'Église catholique, cet État puissant peut être un moyen de rationalisation, de progrès, etc., très, très important. Alors, ça se traduit par le fait, par exemple, qu'il est très hostile...
Voltaire
est très hostile, par exemple, à tout ce qui vient des milieux des parlements, de la robe, dont Montesquieu est lui-même un représentant éminent.
Ah.
Alors inversement, Montesquieu, effectivement, a écrit un texte admirable sur la Constitution de l'Angleterre et un texte encore plus admirable sur les... qui décrit l'Angleterre sans... Il y a un livre entier de l'Esprit des Lois qui décrit l'Angleterre sans jamais la nommer. Ce pourquoi il a la préférence en France, c'est pour le fait que son idée, c'est que ça a été très bien montré par Céline Spector, par exemple, c'est que chez Montesquieu, il y a nettement l'idée qu'il y avait deux voies pour la modération et la liberté. Il y avait la voie anglaise, qui a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients, et il y avait une voie française, qui était celle d'une monarchie modérée, appuyée sur les parlements, etc., et qui a été tuée par l'absolutisme, par Richelieu, etc., avec d'ailleurs un processus qui fait remonter à son arrière, puisqu'à un moment, il dit, après Saint-Louis, la liberté était morte. Donc le mal vient de loin, mais Montesquieu ne rêve pas du tout d'une France qui deviendrait une Angleterre.
Il y a une admiration
commune pour l'Angleterre, mais qui s'accompagne de la conscience du fait que le problème français n'est pas le même.
Bon, en tout cas, même s'il n'était plus là pour le dire, vous êtes tous d'accord que ce qui s'est passé en France pendant la Révolution française n'aurait été du goût quasiment de personne parmi les auteurs que vous venez de citer dans les Lumières.
C'est très difficile à dire.
Évidemment que c'est difficile.
Justement, on a des témoins. C'est-à-dire, on a à la fois l'enthousiasme de Condorcet et le refus de l'abbé Raynal. Or, à bien des égards, l'histoire des deux Indes, alors, bon, qui a été en partie écrite par Diderot, enfin, qui a été un travail collectif, mais qui, vous en parlerez, j'imagine, sur la question du colonialisme, mais qui est une radicalité absolument extraordinaire, avec cet appel à un Spartacus noir, qui pourrait peut-être promulguer un code blanc en représailles de l'ignoble code noir. Donc l'abbé Raynal, qui semblait être la radicalité même, va avoir un rapport immédiatement négatif et va écrire à l'Assemblée nationale, je peux vous citer leurs phrases, ces phrases, elle dit, jamais les conceptions hardies de la philosophie n'ont été présentées par nous comme la mesure rigoureuse des actes de la législation. Vous ne pouvez nous attribuer sans erreur ce qui n'a pu résulter que d'une fausse interprétation de nos principes. Et il fait un tableau extrêmement noir de la Révolution française comme pouvoir tyrannique d'une foule déchaînée. Voilà. Et donc il y a ici, et vous noterez qu'il dit philosophie, parce que c'est un vrai point, c'est-à-dire qu'il y a bien, tout le monde a conscience de vivre au siècle des Lumières. Bon, mais il y a dans ce qu'on appelle les Lumières une partie qu'on appelle les philosophes. Et donc, en fait, au XVIIIe, il n'y a pas encore d'anti-lumière, il y a des anti-philosophes. Et c'est frappant qu'on vous lisez Rivarol. Rivarol interprète la Révolution française comme un échec des Lumières. Parce que vous avez, en fait, une dispute entre ceux qui pensent qu'il faut rendre la philosophie populaire, ce qui est la position de Diderot, ce qui est la position de Condorcet, et ceux qui pensent que la philosophie ne peut pas être popularisée, on peut la diffuser dans la bourgeoisie, peut-être que dans longtemps on pourra éduquer le peuple, mais on doit faire très attention aux idées qu'on diffuse, parce que on risque de créer une déstabilisation sociale qui serait extrêmement dangereuse. Et cette idée, vous la trouvez chez Voltaire, par exemple, hein, quand il dit que la populace doit croire en l'enfer, voilà. Or, Or, c'est la difficulté, c'est qu'il y a les Lumières au sens de ce que les Allemands vont appeler l'Aufklärung, qui est très large et qui n'est pas religieux, mais il y a un bloc radical que ses ennemis appellent les philosophes ou les philosophistes, et qui correspond au noyau dur de l'encyclopédie autour de Diderot, et qui est avec des gens comme d'Holbach et Helvétius, et pour qui la philosophie, ce que nous appelons les Lumières, a le mot d'ordre de Voltaire qui est écraser l'infâme, et qui est d'une radicalité antireligieuse extrême. De ce point de vue-là, pour qu'il y ait lumière, il faut qu'il y ait refus de l'idée de damnation éternelle, refus de l'idée de providence, refus de l'idée des sacrements, refus de tous les préjugés. Bon, or, un certain nombre d'auteurs qui font partie des Lumières au sens large, vont considérer que le refus des préjugés tel qu'il est prôné sous la devise « écraser l'infâme » est un projet en fait totalement antisocial et constitue un nouveau fanatisme. Voilà.
Bien, alors je vous propose de laisser de côté l'instrumentalisation, les trahisons, la bonne foi, la mauvaise foi des observateurs qui, après coup, font le lien entre la Révolution française et les Lumières, ou ne le font pas, bref, pour des raisons aussi stratégique, pour poser le problème un peu autrement. De toute façon, un événement certainement inspiré quand même par quelque chose, vous l'avez dit, Philippe Reynaud, des Lumières, un esprit des Lumières, trahit peut-être toujours l'esprit qui l'inspire. Enfin, il y a quelque chose dans le politique qui est exorbitant par rapport à ses sources intellectuelles. C'est assez naturel. Alors, le plus frappant, c'est que Robespierre, pour parler de lui, a fait en mai 1794 un discours, enfin il a écrit un texte extrêmement violent contre les encyclopédistes. Je vous propose de l'écouter et j'écouterai vos commentaires après. Robespierre.
Dès longtemps, les observateurs éclairés pouvaient apercevoir quelques symptômes de la révolution actuelle. Tous les événements importants y tendaient. Les hommes de lettres renommés, en vertu de leur influence sur l'opinion, commençaient à en obtenir quelqu'une dans les affaires. Les plus ambitieux avaient formé dès lors une espèce de coalition qui augmentait leur importance. Ils semblaient s'être partagés en deux sectes, dont l'une défendait bêtement le clergé et le despotisme. La plus puissante et la plus illustre était celle qui fut connue sous le nom d'encyclopédiste. Elle renfermait quelques hommes estimables et un plus grand nombre de charlatans ambitieux. Plusieurs de ces chefs étaient devenus des personnages considérables dans l'État. Quiconque ignorerait son influence et sa politique n'aurait pas une idée complète de la préface de notre Révolution. Cette secte, en matière de politique, resta toujours au-dessous des droits du peuple. En matière de morale, elle alla beaucoup au-delà des préjugés religieux. Ses coryphées déclamaient quelquefois contre le despotisme et ils étaient pensionnés par les despotes. Ils faisaient tantôt des livres contre la cour et tantôt des dédicaces au roi, des discours pour les courtisans et des madrigaux pour les courtisanes. Ils étaient fiers dans leurs écrits et rampants dans les antichambres.
Comme c'est vous, Jean-Yves Branchère, qui nous avez suggéré ce texte de Robespierre pour cette émission consacrée à l'esprit des Lumières dans les révolutions françaises et américaines, on va venir d'ailleurs à la question des États-Unis dans un instant, je vous laisse, Jean-Yves Branchère, commenter ce texte de Robespierre pour commencer, puis on écoutera Philippe Reynaud.
Je pense que c'est un texte qui poursuit la critique de Rousseau contre Voltaire. Hein. C'est-à-dire, c'est ici qu'on voit que Robespierre...
C'est contre Voltaire, on est d'accord, oui, c'est pas contre Rousseau.
Non, bah, Robespierre est un rousseauiste infidèle, comme vous l'avez dit, à cause de la question de la représentation. Mais c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement marqué par la pensée de Rousseau, comme beaucoup de révolutionnaires français.
Mais Rousseau est encyclopédiste
en même temps, Rousseau participe à l'encyclopédie, mais il est sur des positions spiritualistes et sympathiques au christianisme qui sont aux antipodes de celles de Diderot et de Voltaire. Enfin, si on reprend la définition que donnaient des gens comme Lessing des Lumières de l'Aufklärung, hein, ou de la philosophie, on va dire, comme impliquant le refus de l'idée de providence, comme un point central. Un point qui est frappant, c'est que personne ne croit autant à la providence que Rousseau, et Robespierre aussi. D'ailleurs, il y a des polémiques, parce que Robespierre utilise régulièrement les mots de providence, et il est attaqué chez les Girondins parce qu'il utilise ce mot. Bon, et donc là, vous avez typiquement une critique rousseauiste de la philosophie au sens de l'encyclopédie, pas une critique des Lumières, hein,
c'est pas une critique du comportement,
pas une critique de la science et du fait que les esprits doivent être éclairés. C'est-à-dire qu'on a là des dissensions qui effectivement s'inscrivent dans les Lumières, mais qui portent autour de la question de la religion essentiellement, hein, de la question de l'être suprême et de la façon dont on doit comprendre les Lumières du peuple. C'est ça l'enjeu de friction. C'est pas le bienfait des Lumières, c'est le rapport au peuple. Et bon, on sait qu'une année plus tôt, hein, Robespierre avait fait détruire un buste d'Helvétius, par exemple. Bon. Et par ailleurs, le point qui est tout à fait intéressant là-dedans, c'est qu'au même moment, quand vous lisez Burke, il vous explique que les encyclopédistes, les philosophes, Voltaire, sont responsables de la terreur, et qu'ils sont responsables de la terreur parce qu'en fait, ils ont combattu la religion et qu'ils ont privé les individus de la fibre qui leur permettait de résister au despotisme. Or, le point, et qui montre, si vous voulez, les extraordinaires dialectiques qui traversent la Révolution, c'est vraiment un processus dialectique, ça, c'est une dialectique de dialectique au pluriel, c'est que vous voyez qu'au même moment, en fait, le discours de Burke, il est tenu par Robespierre, qui attaque les encyclopédistes parce que, justement, ils ont mis à bas tout le sentiment religieux. Bon, donc...
même si l'être suprême, c'est pas tout à fait le christianisme, mais vous avez raison, c'est une religion.
Mais Robespierre met fin aux persécutions antichrétiennes.
Mmh, ouais. Bon. Mais c'est pas souvent rappelé, hein.
Oui.
Merci pour votre talent d'historien, tous les deux.
Je dois beaucoup à Antoine Delty et à Didier Massot dans tout ce que je dis là, hein, je le précise. Et à Arnaud Skornicki, voilà.
Je vous écoute, Philippe Reynaud, sur ce texte de Robespierre et les commentaires qu'on a fait.
Un petit mot, si vous voulez bien, à propos de l'être suprême.
Bien sûr.
Très souvent, notamment dans les milieux catholiques, on voit dans l'usage du terme de l'être suprême, qui est présent dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est en présence de l'être suprême, on vous dit, ça montre bien que dans tout ça, il y a un complot antichrétien, on veut plus parler du Dieu chrétien, même de Dieu, donc on l'appelle l'être suprême. Ça, c'est une pure fable. L'être suprême, comme l'a montré notamment Jean de Prun, c'est un terme qui est utilisé dans la littérature ecclésiastique du XVIIIe par à peu près tout le monde.
Ah.
C'est un terme, effectivement, qui correspond à une concession à la philosophie, c'est qu'on ne va pas employer un terme qui correspond immédiatement à la sensibilité religieuse, mais ça désigne Dieu et personne n'en doute, donc c'est une mauvaise querelle. Bon, moi je trouve qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à la pensée de Robespierre. Robespierre n'est pas un penseur, c'est un petit avocat talentueux, qui a été amené à jouer un grand rôle historique et qui a effectivement une vision du monde relativement constante et cohérente qui est fondée sur du bricolage à partir de Jean-Jacques Rousseau, bricolage fait de démophilie, disons.
Et donc d'amour inconsidéré du peuple
démophilie, il aime bien le peuple. Bon, il aime bien le peuple et il aime bien surtout se présenter comme du peuple, ou comme le peuple lui-même. C'est quelque chose qui lui permet d'avoir une position importante, mais bon, là je suis d'accord avec notre ami Prancher pour dire que, sur le fond, c'est simplement une sorte de mise en scène politique extrême, de thèmes qui viennent de la polémique entre Rousseau et les Lumières ou les autres gens des Lumières et qui commencent d'ailleurs pas tellement avec les polémiques contre Voltaire mais avec la polémique sur Genève et sur la création du théâtre à Genève. C'est la polémique avec Diderot qui est décisive dans cette affaire, mais je trouve, si vous voulez, que c'est pas forcément de bonne méthode d'aller directement s'intéresser aux idées de l'homme qui domine la situation en 93. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'en 93, on est dans une situation où l'héritage des Lumières a éclaté, où il y a des conflits violents, etc. Et à mon avis, il vaudrait mieux essayer de suivre le processus qui aboutit à cette division que d'en faire acte.
Entendu.
Comme aimait à dire Raymond Aron, so what ?
Bon, alors je vous propose néanmoins de rebondir sur un point que vous venez d'évoquer, Philippe Reynaud, qui... Vous soulignez que quand on regarde dans le détail, la supposée haine de la religion pendant toute la période de la Révolution, c'est très simpliste. Il y a même l'être suprême est déjà présent, dites-vous, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. C'est vrai qu'il y a, même s'il y a des piques très intéressantes, l'article 10 de cette déclaration, dit, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieux.
Oui, c'est décisif.
Même religieux, ça veut dire, bon, dans notre grandeur, on concède.
C'est plus compliqué que ça. Enfin, quand on regarde l'histoire des débats, ça a été très bien restitué par Marcel Gauchet dans son livre sur la révolution des droits de l'homme. C'est une histoire très compliquée. Ce même religieuse que nous tendons à interpréter ainsi est en fait le résultat de débats qui ont été d'une complexité très grande.
Donc ça montre que c'est un sujet particulier néanmoins pour les révolutionnaires français. Et je voudrais vous demander tout de suite maintenant, là, puisqu'on va faire le lien avec la Révolution américaine, je crois, Philippe Reynaud, vous n'êtes pas d'accord pour opposer lourdement la Révolution américaine qui serait plus religieuse que la française. Ce sont un peu des tartes à la crème que vous aimez critiquer. Alors, je vous laisse la parole pour le faire.
Bon, il y a effectivement des différences importantes qui tiennent au milieu respectif dans lesquels se sont formés les hommes de la Révolution américaine et les hommes de la Révolution française. Les Américains sont des Anglais, tout simplement. C'est pas autre chose que des Anglais qui ont donc été formés dans la culture politique anglaise qui, elle-même, est le fruit d'une histoire compliquée dans laquelle il y a une évolution particulière du christianisme anglais d'un côté et des développements philosophiques originaux de l'autre. Mais simplement... ce que je crois, c'est que les Lumières anglo-écossaises ne sont pas aussi chrétiennes qu'on le dit. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est au premier plan. Et surtout, ce que je dirais, pour le dire en fait de manière un peu schématique, pour les hommes de la Révolution américaine, c'est que la culture des révolutionnaires américains, c'est une culture qui, certes, dans les mœurs religieuses, incorpore un certain nombre de certains héritages protestants, mais dont le contenu de dogmatique est achrétien pour la plupart d'entre eux. Alors bon, il y a deux personnages parmi les pères fondateurs dont on voit très bien qu'ils sont nettement chrétiens, assez chrétiens, c'est Washington qui est épiscopalien, c'est-à-dire anglican traditionnel, et John Adams. Mais enfin, Washington est un grand homme, mais dont la pensée n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est son action. Si vous voulez, c'est pas un inspirateur doctrinal. Et John Adams est un homme extrêmement remarquable, mais dont les idées ont été battues au cours de la Révolution française, de la Révolution américaine. C'est quelqu'un qui et ceux qui ont triomphé, qui sont d'ailleurs très très différents les uns des autres. Bon. Prenons trois personnages, Madison, Benjamin Franklin et Jefferson. Alors commençons par Jefferson. Les idées de Jefferson, ce sont exactement les idées françaises dominantes, c'est-à-dire que c'est un déiste voltairien qui n'est pas un admirateur de Montesquieu, pas du tout, et qui pense que ce que doit accomplir, doivent accomplir les pays qui s'engagent dans ce que nous appelons la révolution, c'est un changement profond dans lequel la raison doit régner en éliminant un certain nombre d'obstacles et dans lesquels on fait beaucoup plus confiance à la rationalité de la loi. La volonté générale, c'est pas forcément démocratique, d'ailleurs, entre parenthèses, ça vient d'ailleurs de Malebranche, donc c'était pas particulièrement démocrate. Mais il y a cette idée de la généralité de la loi. Bon, alors Jefferson a défendu et fait traduire un livre de Destutt de Tracy, qui est un idéologue français, qui est un élève de Condorcet, et dans lequel il y a une critique très, très vigoureuse de Montesquieu. Bon, je vais essayer d'être court, je laisse de côté Madison, enfin, mais que vous prenez Benjamin Franklin.
Oui.
Benjamin Franklin, c'est vraiment un personnage tout à fait éminent dans l'histoire de la Révolution américaine. Alors, c'est quelqu'un qui, de temps en temps, dans ses écrits, explique que la notion de providence a peut-être bien un sens, que c'est pas totalement invraisemblable que Dieu intervienne, mais dans le fond, bon, par exemple, à un moment, il y a des gens qui font des prières pour que pour avoir des renforts pour les troupes américaines. Il dit qu'il croit beaucoup plus à l'efficacité des bateaux de guerre que celle des prières. Et d'autre part, dans un épisode que j'adore, qui est l'ouverture de la convention à Philadelphie, vous savez, il y a eu un grand débat pour savoir s'il fallait ouvrir par une prière.
Oui.
Alors, premièrement, ça veut dire que c'était pas évident d'ouvrir par une prière. Hamilton, qui est un des éminents pères fondateurs, a eu un mot extraordinaire. Il a dit qu'il estimait que cette assemblée était suffisamment éclairée pour se passer de toute aide extérieure. Et c'est un des pères fondateurs. Franklin dit qu'il est pour une prière. Pourquoi ? Parce qu'une prière, ça met une bonne ambiance. Vous n'avez aucune croyance à la providence. C'est manifeste. Simplement, pour le dire d'une formule simple, ce que je crois, c'est que la révolution américaine, c'est une révolution qui a été faite par un peuple qui était beaucoup plus profondément religieux que le peuple français, où il y a des courants religieux extrêmement forts, etc. Bon, ça c'est vrai. Mais dans lequel les élites dirigeantes, les élites qui ont dirigé le combat, étaient des hommes des Lumières pur sucre. Donc, et l'histoire américaine, c'est quand même en grande partie une déclinaison de ce scénario originel. C'est-à-dire, vous avez un régime qui est totalement imprégné de l'esprit parfaitement séculier de ce que nous appelons les Lumières, avec un peuple dont les passions religieuses sont plus fortes que c'est vrai aujourd'hui encore. Mais ça ne veut pas dire, si vous voulez, que alors il y a des différences majeures entre la France et l'Amérique, mais pas sur ce point.
Pas sur ce point, on peut même dire de façon. Tocqueville, puis Marx au XIXe siècle ne s'y sont pas trompés. Lorsqu'ils cherchent un État athée, non religieux, même si le peuple est très religieux, mais ce n'est pas la même chose. L'exemple, c'est les États-Unis. Et il faut rappeler qu'il n'y a pas de culte établi.
Oui.
Par la Constitution américaine, que le premier amendement donne un droit à toute parole libre, qui est protégé constitutionnellement, y compris des propos religieux ou athées ou tout autre. Et puis, le fait que les présidents jurent sur la Bible, ce n'est pas du tout une contrainte constitutionnelle. C'est une pratique politique qui, d'ailleurs, n'a pas été appliquée par tous les présidents de la République américaine. Ils ont parfois juré sur la Constitution ou sur rien.
Oui, vous avez raison. Il faut d'ailleurs ajouter que le premier amendement, c'est l'œuvre de Jefferson. C'est la principale contribution, même il n'a pas parlé. Il est un des aspirateurs. Il n'est pas dans les constituants parce qu'il est en France à ce moment-là. Mais il avait introduit une disposition équivalente dans la Constitution de Virginie. Et sur sa pierre tombale, d'ailleurs, ça fait partie des choses qui sont mises en valeur. C'est l'inventeur de ce qu'on appelle le mur de séparation dans la tradition américaine. Il faut d'ailleurs ajouter que, alors malheureusement, je ne me souviens plus la date, là, mais dans les premiers traités importants De internationaux que signent les États-Unis, il y en a un qui inclut l'Empire ottoman, et dans lequel les parlementaires américains insistent sur le fait que de toute manière, c'est pas un problème de s'entendre avec des non-chrétiens, parce que la République américaine n'est pas en tant que telle chrétienne. C'est explicitement dit à l'époque, si vous voulez. Là, il n'y a pas de doute, si vous voulez. Vous savez que la devise est « God we trust » sur les billets de banque, si je ne me trompe, ça date de la guerre froide.
C'est plus tard qu'il y aura un certain retour.
Je suis tout à fait d'accord là avec Philippe Reynaud. Et bon, donc je ne vais pas insister puisque ce qu'il dit me semble tout à fait juste. Mais je pense que ça permet de rebondir sur cette question rapport lumière révolution.
Oui, exactement.
Alors on pourrait raffiner, mais c'est pas nécessaire. Je pense au livre de Bertrand Binoche, Écraser l'infâme, sur le fait que il y avait peut-être une dimension beaucoup plus agressive chez les auteurs français qui ont eu une vraie influence populaire, Helvétius, d'Holbach. Enfin, Anne Simonin a soutenu que la terreur avait un rapport avec la pensée de d'Holbach et avec la mise en œuvre d'un programme qu'il avait proposé dans son Étocratie. Donc, et là, ce sont des auteurs qui n'ont peut-être pas eu la même influence sur les révolutionnaires américains, mais ça me semble assez secondaire. Je pense que ce qui est très révélateur ici, c'est qu'en fait, les Lumières n'ont pas les mêmes effets selon le type de milieux sociaux et de traditions et de pratiques et d'institutions politiques où elles s'inscrivent.
Oui.
D'ailleurs, c'est de façon très intéressante, c'est que quand l'abbé Raynal critique la Révolution dans son adresse à l'Assemblée nationale, il dit en fait, votre déclaration des droits de l'homme et du citoyen est parfaite, l'esprit de cette Révolution est parfait, mais ce qui est catastrophique, c'est la domination des clubs. Il dit, le problème, c'est que la Révolution est emportée par une domination des clubs qui l'a fait basculer dans la tyrannie. Et donc, le problème n'est pas les textes. Cette déclaration, elle est très bien, mais selon quelle pratique politique. Et c'est un point qu'on pourrait soutenir. Et d'ailleurs, Jefferson, autant que je me souvienne, présent en France, avait dit, si nous avions eu aux États-Unis le niveau de misère qui existait à Paris, il est probable que notre révolution aurait connu des embardées tout aussi terribles que celles qu'a connues la Révolution française avec la terreur. Mais dans ce cas-là, le point, c'est que la clé de décryptage, si vous voulez, les lumières, alors, constituent une sorte de climat général. Bon. Et puis, par ailleurs, il y a des coteries, des clans, il y a les idéologues, il y a des gens qui tiennent à Rousseau et qui en veulent beaucoup à la tradition encyclopédiste, etc. Donc, tout ça existe. Il y a un climat commun qui est celui des lumières, mais la question, c'est que va-t-il se passer dans les milieux sociaux où les lumières se diffusent et dans la pratique. Et ici, je pense que le point le plus intéressant sur la question de la religion, un point qui me frappe beaucoup personnellement, c'est le fait que les révolutionnaires français n'aient pas été capables, sauf tardivement sous le Directoire, mais c'était trop tard, et sous une forme vexatoire, d'avoir l'idée qu'ont eu les révolutionnaires américains, qui était somme toute assez simple, qui était « on va séparer les églises et l'État ». Si vous regardez l'un des plus grands points de dérapage de la Révolution française, c'est la constitution civile du clergé, qui provoque en fait une sorte de guerre civile en mettant toute une série de catholiques et de prêtres catholiques dans l'impossibilité. La constitution civile du clergé en 91 nationalise l'Église catholique en donnant le droit de vote à tout le monde pour l'élection des représentants du culte. C'est d'un point de vue catholique, c'est absolument inconcevable. Or, le point qui est très frappant, c'est que cette constitution civile du clergé, qui horrifie immédiatement Rome, elle n'est pas vue comme un problème par beaucoup de gens en France. Le roi la signe, sans comprendre qu'il est en train de favoriser quelque chose qui a un caractère schismatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un consensus gallican.
Oui.
Voilà. Pas laïque. Gallican,
oui,
ce qui est autre chose.
Ce serait la séparation.
Bon.
Et là,
on a une différence entre les États-Unis et la France qui est très frappante. Les États-Unis vont séparer les églises et l'État. Hein? La France va s'empêtrer de manière très confuse dans un gallicanisme qui est hérité de la monarchie.
Et qui finalement de la établit monarchie. Un
voilà.
culte.
Mais qui est aussi, qui n'a jamais interrogé les Lumières, parce que les Lumières françaises étaient assez gallicanes, en fait, concrètement. dans leur rapport à la monarchie. On oublie trop que les Lumières, en fait, leur cœur n'a pas été politique. Si on veut chercher une pensée politique, il faut justement aller chercher chez Montesquieu, qui est un apax, il faut aller chercher chez Rousseau. Bon, il y a les physiocrates qui ont une théorie économique, mais ils sont favorables à un absolutisme monarchique qui fait régner la liberté du commerce. Et donc, il y a, sur des questions comme celle-là, les Lumières ont vécu tranquillement à l'ombre de la monarchie, dans l'atmosphère des salons. Bon, et l'atmosphère des salons est tout à fait autre chose que les expériences politiques qu'avaient les révolutionnaires français.
Philippe Reynaud.
Les révolutionnaires américains. Oui, je suis d'accord avec l'essentiel de ce que vous venez de dire. Ce qu'on peut ajouter, si vous voulez, c'est que les... les Lumières françaises... Bon, je dirais pas qu'elles sont franchement gallicanes.
Si
on lit les textes de l'encyclopédie sur cette question, ce que j'ai fait d'à peu près, là, quand j'ai fait mon livre sur la laïcité, ce qu'on voit, c'est que ces gens qui passent pour des antichrétiens furieux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est un système dans lequel on imposerait à la religion catholique la tolérance pour les autres, ce qui revient un peu à abolir la révocation de l'édit de Nantes, dans un cadre qui ressemble assez tout simplement à ce que va faire Joseph II en Autriche. C'est-à-dire, c'est un projet, si vous voulez, d'imposition d'une certaine tolérance religieuse par un pouvoir politique qui ne va pas pour autant entrer en guerre avec l'Église catholique. C'est pas, personne n'a l'intention, mais je pense que
c'est assez gallican, Joseph II, quand même.
C'est assez gallican, si vous voulez, mais c'est pas, non, parce que le gallicanisme réel, si j'ose dire, comme le socialisme réel, c'était un système qui prétendait être d'autant plus légitime qu'il était plus efficace pour réprimer l'hérésie que la subordination à Rome.
Alors, c'est sensé,
mais disons qu'il y a, alors il y a beaucoup de choses qui viennent dans la Révolution française de la culture janséniste. Ça, c'est l'abbé Grégoire. Bon, tout ça est très compliqué, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'intention au départ. Je crois que nous sommes d'accord sur ce point d'engager une guerre contre l'Église catholique. C'est un dérapage, pour parler comme Furet et Richer, mais c'est un dérapage qui tient au fait, je pense, que les révolutionnaires pensaient qu'ils pouvaient faire la même chose que ce que la monarchie faisait effectivement depuis toujours. C'est-à-dire que, mais simplement, effectivement, ils n'ont pas vu que là, je suis absolument d'accord avec vous, ils n'ont pas vu que la constitution civile du clergé, c'est la destruction de la structure hiérarchique de l'Église catholique. Et il faudra d'ailleurs attendre au-delà de 1905 pour que grâce au grand Aristide Briand, les laïcs français le comprennent. C'est-à-dire, c'est le moment où on finit par admettre que les associations religieuses n'ont pas à être régies par l'esprit démocratique des associations, mais acceptent la structure hiérarchique de l'Église catholique. C'est un conflit très, très particulier, mais où,
Je suis hélas obligé de vous.
Oui, c'est ça. Bon, mais enfin, voilà. Oui.
Nous sommes obligés d'arrêter cette discussion passionnante. Je renvoie d'ailleurs à vos travaux, à tous les deux, Philippe Reynaud, Jean-Yves Franchère, dont les références sont précisées sur notre site. Et puis nous avons une chanson qui est un chant de la Révolution française, notamment. Entonné à la fête de la Fédération le 14
juillet 1790. Ça ira, ça ira, ça ira, le peuple en ce jour sans cesse répète, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les buts tout réussira, nos ennemis confus en restent là, et nous allons chanter Alléluia.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, suivant la maxime de l'Évangile, ça ira, ça ira, ça ira, du législateur tout s'accomplira. Celui qui s'élève, on l'abaissera, celui qui s'abaisse, on l'élèvera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira,
le peuple en ce jour sans cesse répète, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les lutins, on réussira.
ça ira, ça ira. En dépit des aristocrates et de la pluie. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Nous nous mouillerons, mais c'est fini.
Ah, ça t'aidera, ça t'aidera, ça t'aidera. On va trop bien nous et pour ça se délire. Ah, ça t'aidera, ça t'aidera, ça t'aidera. Et dans le bilan, on s'en souviendra.
Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates.
Ah, ça ira, c'est un chant révolutionnaire français, mais ce qui est très intéressant pour notre émission qui faisait des liens entre l'Amérique et la France, c'est que apparemment, il a été inspiré par l'optimisme de Benjamin Franklin qui disait toujours, quand on lui demandait des nouvelles des insurgés américains, ça ira. Voilà. Donc je vous remercie encore, Philippe Reynaud, Jean-Yves. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms, dont la série cette semaine a pour thème le défi de l'intelligence, c'est le pourquoi du comment.
Comment l'intelligence peut-elle être artificielle? À l'heure de l'intelligence artificielle, encore une fois, il importe de se demander si cette notion est elle-même artificielle, juste une notion de circonstance, ou si elle comporte quelque chose de très profond, quelque chose de fascinant, dans la possibilité de mécaniser, de produire techniquement une faculté vitale pour les êtres humains, qui est la faculté, non pas de connaître en général, mais la faculté qu'on désigne sous le mot d'intelligence. Que désigne-t-on en effet sous le nom d'intelligence? Il faut le redire. L'intelligence, c'est la capacité que manifestent certains êtres vivants, en particulier, et peut-être pour certains exclusivement les êtres humains, la capacité donc à relier certains éléments de leur expérience pour en tirer quelque chose de nouveau et d'utile pour l'action. Est-ce que cette capacité repose sur des mécanismes d'association d'images, un peu à la manière de la mémoire et de l'imagination chez les empiristes? Est-ce qu'elle suppose une capacité de calcul? En tout cas, elle se manifeste dans un comportement qui consiste à partir de données éparpillées à produire un savoir et une action nouvelle, à être en effet productrice de contenu par une capacité interne à un être, ce contenu nouveau n'étant plus que ce qui lui précède. Avec les données préalables, on produit quelque chose de nouveau, c'est ce que fait un être intelligent. Or, il y a en effet des machines aujourd'hui qui, sur des bases en effet mathématiques très complexes, sur des données très nombreuses, produisent en effet quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ce ne sont pas seulement des encyclopédies plus puissantes que tout ce que le cerveau humain peut retenir, ce sont des comportements de production de savoir nouveau qui se traduisent en effet dans des machines. Il est donc clair en effet que l'intelligence peut être artificiel. Y a-t-il là quelque chose qui nous sidère? Bien entendu, puisque le comportement d'un être humain comme être intelligent est quelque chose que nous connaissons dans la vie, qui ne nous semblait pas reproductible comme tel. Mais cela épuise-t-il les comportements de l'être humain en général? Que l'intelligence soit artificialisable, cela ne surprendra pas certains philosophes comme Bergson qui ont toujours pensé que l'intelligence est quelque chose de très puissant, mais en même temps de limité, qui n'épuise pas le champ de la connaissance humaine pour lequel nous désignons dans la vie courante le terme d'intelligence d'une manière plus large. Si l'intelligence est la manière de combiner mathématiquement des données pour arriver à des résultats pratiques, utilisables, alors oui, l'intelligence peut être artificielle, peut être utilisée d'ailleurs pour le meilleur comme pour le pire. On peut s'en servir pour produire des médicaments ou pour produire des armes. On peut s'en produire pour dire la vérité ou pour mentir. On peut mathématiser à l'extrême et même retrouver les algorithmes que la machine produit toute seule de mieux en mieux, et les mathématiciens courent après les mécanismes de l'intelligence. Oui, l'intelligence artificielle, c'est même un pléonasme chez Bergson. L'intelligence humaine est technicienne, artificielle, artificieuse, contrairement à l'instinct animal qui ne peut pas produire du nouveau. C'est une puissance technique, ouverte, magique en quelque sorte, mais qui n'épuise pas le champ de l'esprit. Un être intelligent, un humain intelligent, c'est comme chez Pascal, il n'a pas seulement l'esprit mathématique de géométrie, il devine du nouveau à l'intuition, il se repère aussi dans le monde par la parole entre les humains. L'intelligence n'est artificielle qu'en un sens artificiel du mot d'intelligence, il faut la compléter par toutes les autres puissances de l'esprit.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée en particulier par Victoire Mellet et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Anna Fulpin, Nassim El-Kabli, Corinne Amar. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.